Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Jérôme.
Bonjour Barthélémy, ça va?
Ça va super et toi?
Bah écoute, ça va très bien. Les beaux jours commencent à arriver ici dans le sud, donc... On se prépare pour l'été.
Ouais, on se prépare sur l'été. Mais on a eu un mois de mai pas terrible, hein. Franchement, j'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire le mois de mai.
Ben nous, en règle générale, à Aix-en-Provence, au mois de mai, il fait plutôt chaud déjà. Ouais. On a ça dépasse assez facilement les 25 degrés. Et là, cette année, on a eu un peu de pluie et ça a eu du mal à monter au-dessus des 20, donc ça fait un peu bizarre.
Ouais, c'est clair. Puis si on vit dans le sud, c'est aussi pour aller chercher un peu de chaleur et de
ah oui
et ça, du beau temps.
Après, je la fuis en juillet août parce que c'est un peu trop ici pour moi. Ouais. Mais ouais, non, c'est sûr qu'ici, on vient chercher le soleil, le beau temps, parce que on a à peu près 300 jours de beau temps dans l'année. Et c'est vrai que bah, même l'hiver, quand il fait beau, c'est super agréable, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est une question que je me posais sur toi d'ailleurs, si t'avais fait des choix de carrière par rapport à ça, parce que quand on regarde un petit peu, je sais plus où j'avais trouvé, où, je crois que c'est Nadège qui me l'avait soufflé, que t'aimais beaucoup la Corse et que de temps en temps t'allais passer tes vacances là-bas. Quand on regarde un petit peu ton plan de carrière, c'est rarement
dans le Nord. C'est pas tout à fait exprès, mais il y a eu une part, oui, après quand j'ai connu ma femme. En fait, bon, moi, je suis originaire de Bordeaux. Déjà, quand je suis parti à Toulouse, je trouvais que le temps était un petit peu plus clément. Et à partir du moment où je suis arrivé à Montpellier, bon, le fait de faire Montpellier et Barcelone, c'est sûr que pendant pratiquement 10 ans, tu vis dans des endroits où il fait super bon vivre. Ciudad Real, c'était pas mal aussi, même si c'était un peu plus continental, mais on avait quand même des belles journées. Après, le petit intermède à Kiel nous a fait comprendre que ça serait bien qu'un jour on se pose dans un endroit où il ferait bon vivre. Et puis voilà, donc du coup on est rentré à Toulouse parce que c'était un choix aussi pour moi pour préparer ma reconversion. On était très bien à Toulouse, on avait fait construire et vraiment on s'y plaisait beaucoup. Et puis bon, il y a eu un changement à la tête du club qui m'a pas forcément convaincu, donc j'ai décidé de chercher un autre endroit, un autre club pour rebondir. Et c'est à ce moment-là que le projet d'Aix-en-Provence a éclos. Et du coup, ils ont été très emballés sur le fait de m'accueillir. Et voilà, donc ça fait maintenant 6 ans que je suis à Aix. Et c'est vrai que finalement, il y a eu beaucoup d'endroits où j'ai vécu, où on est plutôt gâté au niveau climat. Mais j'ai toujours quand même fait des choix sportifs. Quand je suis parti de Bordeaux, c'était pour commencer ma carrière pro et pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir progresser. Ça a été le cas très rapidement, donc ça m'a permis de signer dans le meilleur club français qui était à Montpellier. Enfin, qui est pour moi, aujourd'hui, toujours Montpellier, même si Paris domine. Mais en tant qu'entité club et par rapport au palmarès et à l'histoire du club, Montpellier reste pour moi la référence. Et puis après, voilà, j'ai fait les trois plus gros clubs de mon époque. Donc, bon, voilà, il y en a deux où c'est plutôt agréable d'y vivre. C'est Barcelone et Ciudad Real. À Kiel, on y est bien, surtout qu'on est très bien accueillis et que il y a une vraie ferveur autour du handball.
Ouais,
beaucoup plus encore qu'à Ciudad Real et à Barcelone. Mais c'est vrai que voilà, ma femme est en Corse. Bon, le climat allemand, nous a vite fait comprendre qu'il fallait qu'on rentre en France, quoi.
Ouais. Ok, bon bah on peut comprendre du coup certains choix, mais ouais, je peux comprendre parce que bizarrement il y en a peu en tout cas de ta génération et de parmi peut-être tes proches, tes amis dans le hand qui sont allés justement soit en Allemagne, soit dans les pays un peu plus au nord. Je connais pas tous les parcours exacts de chacun, mais
en fait il y a Thierry Omeyer, Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic qui sont allés à Kiel pendant de nombreuses années.
Ouais.
Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour le sport. Il y a aussi le fait que Thierry soit alsacien. Bon, pour lui, le climat allemand, ça le dérangeait moins, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que bon, on a été quelques-uns de ma génération à s'expatrier. Les frères Gilles sont allés à Hambourg. Ils y ont passé 10 ans. Ouais. Et ils y étaient très très bien parce qu'Hambourg est une ville magnifique. Mais voilà. Après, Didier Dinard à Ciudad Real. Lucas Ballo, quelques années aussi en Espagne. Mais ouais, on a été la génération après les Bargeaux à beaucoup s'expatrier.
Ouais.
Et puis après, on a voulu revenir en France pour faire profiter à nos clubs français de notre savoir-faire et de nos compétences. Et puis voilà, donc du coup, aujourd'hui, on en a quelques-uns de la nouvelle génération qui commencent à s'expatrier. Mais il y a eu une longue période où effectivement les internationaux français étaient revenus en LNH.
Ouais. Mais pour toi d'ailleurs, c'est un passage obligatoire, tu vois, de s'expatrier à un moment quand t'es handballeur français. Si tu veux goûter à la Ligue des Champions, si tu veux goûter vraiment à la performance.
Tout dépend ce que tu recherches en fait. Je pense que sportivement aujourd'hui, quand tu joues à Paris, à Nantes ou voire même à Montpellier, ça te permet quand même d'avoir des ambitions au niveau européen.
Ouais.
Mais après, Je pense qu'il est bon aussi de s'expatrier pour aller voir d'autres cultures, apprendre d'autres langues, côtoyer d'autres nationalités, même s'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent jouer en France maintenant. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, on y voyait surtout un intérêt sportif pour aller chercher une autre culture de jeu et pouvoir compléter finalement cette formation française qui est de qualité, mais qui est pas tout à fait complète. Donc, je pense que pour nous, ça a été un moyen aussi de devenir de meilleurs joueurs et du coup, de faire aussi s'élever le niveau de jeu en équipe de France.
Ouais, je vois. Ouais. Et quand tu dis une formation qui est pas forcément complète, c'est quoi? C'est sur l'état d'esprit, peut-être qui peut être un peu plus, je sais pas, une culture de la gagne, une, je sais pas, une ferveur.
Non, c'est pas par rapport à ça. C'est qu'on a vraiment une formation en France qui est très individualisée.
Ok.
Où on a, je pense, dans le jeu français, une approche moins aboutie au niveau collectif. Et quand tu vas dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, ou peut-être même les Balkans, tu as des pays où les cultures sont beaucoup plus sur le jeu collectif et moins sur la dimension athlétique des joueurs. Et donc voilà, ça te permet un petit peu d'avoir plusieurs cordes à ton arc, quoi.
Ok, bah c'est marrant. Enfin, j'avais jamais pensé la question comme ça, tu vois. Je m'étais.
C'est un petit peu le même constat dans les autres sports co, hein, au foot, même au basket, tu vois.
Ouais.
Et alors c'est vrai que le basket, ceux qui portent un NBA, bon, un NBA c'est beaucoup de un contre un. Mais quand tu vas dans des gros clubs d'Euroleague comme Nando De Colo par exemple,
ouais.
Bah là, oui, il y a une grosse dimension tactique et ça te permet de voir ton sport d'une autre manière, quoi.
Ouais, c'est clair. Et ça, c'est en train de changer un peu dans le hand français, là, selon toi?
C'est en train de changer parce qu'on a accueilli des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs espagnols et certains entraîneurs étrangers. Donc, qui amènent une autre vision du handball. Et effectivement, c'est en train d'évoluer. Mais bon, dans les pôles de formation, c'est-à-dire quand les gamins sont au lycée, et voire même dans les centres de formation, tu as principalement des entraîneurs français. Donc on est toujours sur la même dynamique qu'il y a pu y avoir depuis la génération des Barjots, quoi.
J'imagine, ça c'est clair. Mais en plus je vois il y a tellement de, je le vois avec mon petit frère. Bon là il a 26 ans, donc il joue plus pour le plaisir que pour la perf, mais je sais qu'il a cherché pendant longtemps à atteindre, tu vois, les vraiment il a passé
le meilleur niveau possible.
Ouais, le meilleur niveau possible, ouais, à faire des sélections, à changer de club, à essayer de se créer un petit parcours et je voyais qu'il y avait un niveau qui était tel, tu vois, et j'aurais pas pensé ça, tu vois, sur l'aspect tactique justement et sur la façon un petit peu d'entraîner, j'aurais pas imaginé ça, donc quand je vois toute la nouvelle génération qui a eu sûrement qui a été inspirée et j'en fais un petit peu partie, même si maintenant je suis trop vieux pour ça, mais qui est inspiré par vous, je me dirais que, enfin, j'aurais eu tendance à me dire que ça avait changé pas mal depuis, quoi. Mais
donc ça a évolué. Ouais. Mais on peut aller un petit peu plus loin encore, je pense.
Ok, ça marche. Et c'est quoi encore les, selon toi, il y a d'autres évolutions possibles là pour, je sais pas, les 10 prochaines années du hand français. C'est parce que vous avez, enfin, tu vois, sur le stade de la, par exemple, de la médiatisation, vous avez quand même fait beaucoup changer les choses. Ouais. Vous êtes devenus tous un peu des personnalités publiques. On a toutes vos finales et même tous vos parcours étaient télévisés. Tu vois, qu'est-ce qui peut y avoir comme changement en plus encore pour amener encore la France.
Il y a des petits détails qui peuvent encore nous faire passer un cap, notamment le fait peut-être d'être un petit peu plus retransmis sur des chaînes publiques.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, les matchs sont retransmis sur des chaînes privées, payantes. Donc, oui, les passionnés font l'effort de payer pour voir les matchs de championnat ou les matchs de Ligue des Champions. Mais on toucherait un plus grand public si on était, comme c'est le cas, par exemple, quand l'équipe de France va au bout des compétitions, quand il passe sur TF1 ou TMC, là, tu touches un plus grand nombre. Et souvent des gens qui sont pas habitués à avoir du handball à la télé, quoi. Donc ça, c'est déjà, je pense, une chose qui pourrait évoluer dans le bon sens. Et puis après, il faudrait que la Ligue nationale de handball arrive à attirer beaucoup plus de gros sponsors privés nationaux pour mettre encore plus de lumière sur notre sport. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même de formidables outils avec les réseaux sociaux qui font qu'on peut quand même beaucoup communiquer sur le handball. Néanmoins, ça remplacera jamais une grosse entreprise française qui veut s'attacher l'image du handball, style l'EDF ou Butagaz, comme c'est le cas pour les filles, par exemple. Donc voilà, si on arrive à attirer des sponsors comme Air France, etc., je pense que là, on peut encore passer un cap. Néanmoins, j'aurais envie de te dire que le niveau de médiatisation et le niveau économique qu'a atteint le handball ces dernières années me convient tel qu'il est, parce que si on va au-delà, j'ai peur qu'on ait des dérives de comportement comme c'est le cas un petit peu au rugby maintenant et comme c'est le cas au foot depuis de nombreuses années. Donc voilà, quand tu as des jeunes athlètes de 18, 20, 22 ans qui commencent à toucher des grosses sommes, ils peuvent être amenés à faire des bêtises qui peuvent salir leur image, mais surtout l'image de notre sport. Donc c'est pas forcément une bonne chose, ou alors il faudrait arriver à mettre un cadre où effectivement on pourrait signer des gros contrats, mais à partir du moment où les joueurs sont matures, quoi. Voilà, à titre personnel, quoi, humain.
Voilà. Ah ok, je vois. Mais c'est hyper intéressant de toute façon comme on va dire problème à résoudre, parce que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Les marques, elles vont être intéressées s'il y a plus de médiatisation, et il y aura plus de médiatisation s'il y a plus, tu vois, de sponsors, ouais. Donc c'est.
Mais tu vois, nous ces dernières années, il y a beaucoup de joueurs de haut niveau qui veulent communiquer ou faire leur propre communication via leurs réseaux sociaux. Mais des fois c'est maladroit, c'est mal fait, donc c'est pas forcément quelque chose de positif pour notre sport non plus, quoi.
Ouais, je vois. Même voilà. C'est un beau débat en tout cas à avoir, je trouve, ouais. Tu vois, pour l'évolution d'un sport, et effectivement garder cet esprit. Il y a un esprit, tu vois, dans le hand, et je l'ai vu, moi, tu vois, en étant au bord des parquets pour aller voir, en allant voir mon frère. C'est vrai qu'il y a un côté très, à la fois très famille. Et en même temps très respectueux, très très collectif, et qui peut vite changer, effectivement, parce que c'est pas la même ambiance, tu vois, sur certains bords de terrain de foot des très jeunes ou quoi, et c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. Je fais un petit flashback en arrière, parce que j'aime bien, ouais, poser un petit peu la question à mes invités, savoir un peu qui est-ce qu'ils étaient plus jeunes. Toi, ton histoire, tu l'as raconté déjà de maintes et maintes fois, de tes parents, de tes deux parents handballeurs, et que t'es vite tombé dedans. Mais tu te souviens de la première fois que t'as pris une balle, ou la première fois que t'as mis un peu de résine sur les mains et que t'es allé faire chauffer un peu le parquet?
Alors la première fois que j'ai pris une balle dans la main, j'ai pas trop de souvenirs, parce que j'étais vraiment tout tout petit.
Okay.
Je pense que j'avais moins de 4 ans, tu vois.
Ouais.
Mais okay, par contre, la première fois où j'ai mis de la résine sur les mains, j'étais adolescent. Et c'est une sensation vraiment bizarre, parce que du coup tu es habitué à jouer sans résine, et t'as l'impression un petit peu de perdre à la fois de la précision, t'es obligé un petit peu de changer un peu ta gestuelle aussi, et au début il y a vraiment un temps d'adaptation, quoi.
Ouais, le cassage de poignet est pas le même. Mon frère m'avait expliqué, ouais, qu'au début c'est ouais, un peu bizarre. D'ailleurs, ouais, il me demandait est-ce que les joueurs pro ont des solutions pour la retirer, parce que lui, je crois que son produit, oui, ça marche pas très bien.
Alors moi, en fait, j'avais toujours avec moi dans mon sac d'entraînement une serviette que je condamnais, hein, parce que c'était, ouais, vraiment la serviette que pour ça. et j'achetais en fait de la crème Nivea. Ce qui fait qu'en fait, en mettant de la Nivea, bon, déjà, ça te permet, entre guillemets, d'hydrater ta main et d'éviter tous les problèmes de cloques, d'ampoules et tout, ouais, ça. Et puis surtout, après, avec la serviette, quand tu frottes, ça te permet vraiment d'enlever, tu vois, les morceaux de poussière qui collent encore, etc. Et après, t'as vraiment les mains nickel, quoi. Donc okay, ça, ouais, c'est un bon conseil.
Bah écoute, je lui dirais, parce que je crois que lui, il utilise de l'acétone ou un truc un peu, un
oui,
peu chimique.
Alors,
et
le
tout.
problème de l'acétone, si tu veux, c'est que ça te nettoie les poussières.
Ouais.
Par contre, tes mains continuent à coller un peu.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais.
Donc, c'est pas agréable.
Bon, bah, je lui dirai.
Alors qu'avec la Nivea, après, ça glisse.
Ça marche. Bon, on aura fait de la petite pub
Exactement.
pour la
Nivea, mais
crème.
ça peut être n'importe quelle crème hydratante. Hein.
Ouais, mais ça marche. Mais en tout cas, je lui dirai, on fera
Ouais.
le test ensemble ce week-end
Ça marche.
pour voir si ça marche. On ira prendre une petite balle.
Bah, d'autant plus que maintenant, ils en mettent de plus en plus, les
Ouais.
joueurs. Bon, à mon époque, on n'en mettait pas beaucoup. Même certains coachs, d'ailleurs, le coach qui m'a formé à Bordeaux, Borogolic, m'interdisait la colle pour que je me muscle les doigts et
Ok.
que je m'habitue à jouer avec moins de résine. Mais après, le problème, c'est que quand je suis devenu pro et que je suis arrivé en équipe de France, bah, quand tu joues contre les pays scandinaves, contre les Allemands et tout ça, ils ont des colles très très fortes.
Ok.
Et au début, t'es en panique, quoi, parce que t'as l'impression de réapprendre à jouer avec de la résine, mais qui est pour le coup beaucoup plus forte. Et alors, tout ce qui est passe, shoot, bah, c'est une catastrophe au début. Au niveau de la précision, c'est vraiment difficile, quoi.
Ok, d'accord, ouais. Ok, mais
Parce qu'on n'utilise pas la même résine selon les pays, en fait.
Ah ouais, ok.
Ouais.
C'est pas du tout codifié. Il y a pas dans les règles, tu vois, sur le
Alors,
matériel.
c'est codifié dans chaque ligue, dans chaque pays, dans chaque championnat, en fait. Mais après, quand tu te joues en Coupe d'Europe ou quand tu joues en équipe nationale sur des matchs amicaux ou des compétitions style Euro ou Mondial, ben là, non, il n'y a pas de résine officielle. Donc, chaque pays utilise la sienne, quoi.
Ok, ouais. Et y a pas eu des, je sais pas, des. Tu peux pas créer une stratégie autour de ça, justement, autour de la
Alors,
façon.
il y en a qui essayent, notamment les Scandinaves, qui dégonflent beaucoup le ballon.
Ouais. Ah ouais, ça
Donc,
j'en
du
avais
coup,
pas entendu
c'est un
parler.
petit peu gênant pour dribbler, tu vois. Mais moi, j'étais vigilant quand j'étais capitaine. À chaque fois, je faisais regonfler le ballon de match parce que sinon, c'était une catastrophe. Et après, bon, il y a quand même quelques marques maintenant qui essayent de sortir des ballons sans résine. Donc, c'est des
Ok.
ballons qui ont déjà un système autocollant dessus, style post-it, quoi. Et pour moi, c'est suffisant. Ça colle suffisamment. La seule contrainte, c'est qu'après chaque entraînement, comme ça ramasse la poussière dans le gymnase, il faut le passer dans une machine pour vraiment le remettre presque à neuf, quoi.
Ouais.
Donc à chaque fin d'entraînement ou tous les jours pratiquement après deux entraînements, il faut remettre les ballons dans une machine pour qu'ils ressortent bien.
Ok. Ok.
Voilà.
Bon bah écoute, c'est hyper intéressant d'avoir ces petits détails et techniques et les petits conseils de pro pour les jeunes handballeurs. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes qui écoutent, qui aiment bien écouter, s'inspirent un peu des grands champions. Donc ils nous écoutent et ils ont des petits tips directement d'un champion du monde et champion olympique. Donc ça peut ne que leur booster leur carrière en tout cas. Et ouais, toi tu te souviens un peu de ce qui vraiment t'a plu dans le hand, tu vois, c'est quoi? C'est le combat, c'est je sais pas, le bruit du parquet, c'est le
Il y a plusieurs
collectif, les
choses.
coups avec les copains.
Déjà, le fait de naître et de grandir à Bordeaux, j'ai essayé des sports d'extérieur. Bon, tu vois, quand tu te retrouves dans la boue pendant 6 mois, il y a un moment où tu te dis, bon, le sport d'intérieur, quand même, c'est vachement bien. T'es à l'abri, voilà. Donc ça c'est déjà un des points qui m'a fait quand même préférer le handball. Je pense que le fait aussi que y ait mes parents et les amis de mes parents, ben du coup on était un petit peu en famille, quoi. On se retrouvait tous les week-ends dans les gymnases et ah oui, on faisait des matchs, mais on passait toute la journée dans le gymnase à encourager les autres équipes. Mes parents arbitraient aussi. Après on faisait les troisièmes mi-temps, donc c'était très festif, très convivial en fait. Et ça, je l'ai pas retrouvé dans d'autres sports que j'ai essayé, comme le foot, le tennis ou le tennis de table. Après, moi, j'ai quand même une mentalité qui est très tournée vers le sport collectif. J'adore être avec des gens en fait. Moi, le tennis, au bout d'un moment, ça m'agaçait parce que j'étais tout seul et que ben, quand je commençais pas bien, ben, je balançais le match parce que ça me saoulait. Et quand j'étais bon et que je gagnais le match, bah, j'avais personne avec qui le fêter, donc c'était un peu fade, quoi, par rapport au handball.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et puis oui, après, c'est sûr que y avait des valeurs dans le handball de combat, de pugnacité, de solidarité, qui me plaisaient plus que d'autres sports co. et notamment au foot qui commençait déjà à mon époque à devenir un peu trop individualiste, quoi. Donc du coup pour moi c'était tout à fait naturel de faire du handball, de faire d'autres sports à côté pour compléter ma motricité, pour découvrir d'autres choses. Et puis voilà, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de ne faire que du handball pour essayer de me donner une chance de rentrer en sport-études. Et voilà, et puis après, à partir du moment où tu rentres en sport-études, tu rentres dans un engrenage presque de sportif de haut niveau, parce que quand tu passes de 1 ou 2 entraînements semaine avec ton petit club à 7-8 entraînements semaine avec la sporette, c'est sûr que là, la charge d'entraînement fait que soit tu y arrives ou soit tu satures. Et si tu satures, tu restes dans ton petit club et tu oublies le haut niveau, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que du coup, ouais, t'as songé vachement tôt à essayer de devenir pro, non?
Alors, pas devenir pro parce qu'à mon époque, quand j'étais ado, le handball n'était pas professionnel.
Ouais.
Mais je voulais essayer d'aller au plus haut niveau possible. Je n'avais pas l'ambition de jouer en équipe de France ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, les Girondins de Bordeaux étaient en première division. Et je me disais, ouais, si je progresse bien et que je travaille bien, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de jouer pour ce club-là. Et ça a été un petit peu ça mon leitmotiv, si tu veux. Et donc j'ai essayé de franchir les étapes les unes après les autres. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France Espoir. Ouais. Et ça a été en fait le moment où l'équipe de France est devenue championne du monde. Et là, le handball a pris une autre dimension, surtout au niveau économique. Et finalement, les joueurs de l'ancienne génération qui travaillaient à côté ont commencé à toucher des sommes intéressantes. Et c'est que finalement, à l'âge de 20 ans, que j'ai compris que je pouvais en faire mon métier, mais c'était pas prévu avant ça.
Ouais, ok, ouais. Ouais, mais d'ailleurs, je me demandais, ouais, l'influence, tu vois, d'une équipe comme celle des Barjots, est-ce que c'est quoi? C'est en 95 en Islande, ouais. C'est ça qui gagne leur tout premier titre?
Bah, l'influence des Barjots, elle a été considérable parce que, si tu veux, l'équipe de France de handball était peut-être 20e ou 25e nation jusqu'au début des années 90. Et c'est cette génération-là qui s'est qualifiée pour le Mondial A, qui s'est ensuite qualifié pour les Jeux de Barcelone. Et moi, les Jeux de Barcelone, ça a été les premiers Jeux vraiment que j'ai regardé à la télé.
Ouais.
J'avais 15 ans. Moi, au début, c'était pour voir la Dream Team de basket, pour voir Carl Lewis et tout ça. Ouais. Et puis, je me suis retrouvé avec une équipe de France de handball qui commence à gagner des matchs, qui se qualifie pour les quarts de finale, qui se qualifie pour les demi-finales et qui arrache une médaille de bronze avec les mecs après qui vont sur les plateaux, etc. Je me suis dit, waouh, mon sport commence à devenir performant. Et l'année d'après, au Mondial 93, ils font vice-champion du monde. Donc, du coup, je pense que c'est ces 3-4 années entre les JO de Barcelone et les JO d'Atlanta ont décomplexé le handball français. Et ça a donné des ambitions à tous les niveaux. Au niveau de l'équipe nationale, au niveau de l'équipe nationale féminine, au niveau des clubs français aussi, parce qu'il y a des clubs français qui commençaient aussi à briller en Coupe d'Europe. Il y a eu l'USAM Nîmes, il y a eu l'OM Vitrolles qui a gagné la Coupe des Coupes. Voilà. Et puis après, Montpellier qui a explosé. Donc, si tu veux, ça a été comme ça un cercle vertueux qui a démarré et qui s'est installé dans le handball français. Et puis, ma génération est arrivée à ce moment-là. Donc, voilà, on s'est laissé porter par tout ça et il a fallu qu'on assume avec notre génération le fait de passer derrière les Barjots. Ça a été compliqué psychologiquement parce que pour moi les Barjots c'était mes idoles, donc me retrouver du jour au lendemain à jouer contre eux et puis après à m'entraîner avec eux en équipe de France et à faire des compétitions avec eux en équipe de France, je me sentais pas légitime, si tu veux. Il y a que à partir du moment où on a gagné en 2001 avec les anciens où je me suis dit, allez, j'ai 23 ans, je joue à Montpellier dans le plus grand club français. Là, t'as le droit d'être ambitieux. Ouais. T'es champion du monde, même si t'as pas été l'un des meilleurs joueurs, mais t'es quand même champion du monde déjà. Et t'as une génération de fous qui a été médaille de bronze avec l'équipe de France Espoir au Mondial. Écoute, si vraiment on est tous très motivés et qu'on arrive à mettre nos égos de côté et à faire en sorte que le collectif prime, je pense qu'on peut faire des grandes choses, et ça a été le cas à partir de 2006, quoi. Voilà.
Ouais.
Et 2006, on avait 29 ans, 30 ans, notre génération.
Ouais.
Donc on était plus si jeunes que ça, finalement.
Ah ouais, mais c'est l'histoire est folle de la façon avec laquelle ça se mélange et tout. J'avais lu aussi le livre de Bruno Martini qui explique que ça a pas été la transition elle a pas été non plus hyper facile. En même temps, il y avait beaucoup de respect entre je pense les générations, mais que c'était peut-être pas si évident parce que il y a plein de choix techniques qui sont faits d'un nouvel entraîneur aussi et bon et ça peut ne pas plaire aux anciens et tout mais en tout cas ça marche quoi, ça fonctionne donc c'est l'histoire est belle en tout cas et ça c'est ce qu'il faut.
L'histoire est belle parce qu'il y a eu une longue continuité en fait des deux sélectionneurs qui ont marqué l'histoire de notre sport. La fédération française a fait le choix de laisser en poste des gens qui travaillaient beaucoup et qui œuvraient pour que le handball français alors d'abord sorte de l'anonymat avec Daniel Costantini et obtienne ses premiers grands résultats. Et puis après avec Claude, ça a été cette continuité, ce passage de relais avec les nouvelles générations. Et je crois que ça a été aussi ça la force de notre sport, c'est que dans d'autres sports professionnels, médiatisés, on a tendance à vouloir changer les choses très vite. Et des fois, c'est pas forcément des bonnes choses. Il faut laisser le temps aussi aux coachs ou aux sélectionneurs de s'adapter aux joueurs qu'ils ont, à peut-être faire évoluer aussi leur managerat, ce qu'a su très bien faire par exemple Claude Onesta, qui au début, quand il a repris la suite de Daniel, a été très directif. Et puis après, au bout de 3-4 ans, il a plus délégué aux joueurs et il a tout chapeauté, mais il a laissé la partie technique, tactique, sportive aux joueurs parce qu'on évoluait tous dans des grands clubs avec des très grands entraîneurs. Et ça nous a permis, nous, de nous responsabiliser et d'aller chercher des résultats de manière régulière, quoi.
Ouais. Mais ça tombe bien que tu parles de ça parce que je, comme je te le disais un peu en préparation, là, je suis notamment t'as mentionné l'ego et toi t'as été capitaine de cette équipe justement dans laquelle tu dis que vous avez eu que Claude vous a laissé beaucoup de d'ownership, si on peut appeler, si c'est peut-être le bon mot en anglais, je sais pas comment on pourrait dire en français, mais en tout cas beaucoup de responsabilité,
d'autonomie,
d'autonomie. Et comment justement c'est comment est-ce que avec le recul toi tu définis ce rôle de capitaine que t'as eu peut-être qui peut être différent dans un autre sport ou dans une autre équipe et comment tu gères justement tous ces égos parce que c'est un sport très viril, très masculin dans les vestiaires, j'imagine que ça sent la testostérone et les copains quoi aussi, donc comment est-ce que tu l'as géré toi et comment est-ce que t'as pris en main un peu cette responsabilité là
Ça n'a pas été facile parce que quand Olivier Giraud a annoncé sa retraite, ma génération avait 30 ans passé. Et si tu veux, dans l'effectif, il y avait des gros leaders de caractère, comme Thierry Omeyer, Didier Dinard ou Bertrand Gilles. Et tout le monde s'attendait à ce que ça soit l'un des trois qui récupère le brassard. Et à la surprise générale, le staff a décidé de me confier cette mission.
Parce qu'ils estiment.
Non.
Ok.
Donc, on arrive au stage suivant les JO de Pékin. Donc, c'était pour démarrer les qualifs pour l'Euro 2010 en Autriche. Et là, le staff nous réunit et dit, on va vous dire quel est le nouveau capitaine. On a bien analysé, on a bien réfléchi et on va partir sur ce choix-là. Et puis, si ça ne marche pas, on se laisse la liberté de changer. Mais on a décidé que ça serait Jérôme. Et moi, je m'y attendais pas du tout, si tu veux. Okay. Donc je reçois ça un petit peu comme un cadeau empoisonné au début parce que je me dis mince, je vais me retrouver capitaine avec des mecs qui ont plus de caractère que moi, donc faudra peut-être pas que je sois un capitaine trop intrusif et trop directif, mais par contre que je partage cette tâche avec mes coéquipiers de ma génération. Donc moi très rapidement j'ai expliqué aux anciens, je leur ai dit les gars, on aurait tous pu être capitaine dans cette équipe. C'est moi qui ai été nommé, donc je l'accepte. Mais on a tous ce rôle-là dans l'équipe. Parce qu'en plus, on avait tous des groupes d'affinité en fait où on était un petit peu leader. Ouais. Donc du coup, moi j'ai été nommé pour faire le lien entre tous ces groupes parce que je m'entendais bien avec tout le monde, je savais faire la part des choses. Et donc du coup, je pense que Claude savait pertinemment que je n'allais pas tirer la couverture à moi. Et qu'au contraire, j'allais essayer d'être le plus participatif possible. Et c'est ce que je me suis attelé à faire. Ma seule mission a été d'intégrer au mieux tous les nouveaux, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé que les anciens, ils étaient gérés par Claude, que moi, capitaine, je devais pas intervenir parce que les égos étaient vraiment très, très développés et que c'était à Claude à mettre le haut là quand ça n'allait pas. Et il l'a fait que très rarement parce que les garçons ont eu un super comportement. Et moi, finalement, ben, j'étais là pour accueillir des William Accambray, des Xavier Barraché et faire en sorte qu'ils s'intègrent le plus vite possible, qu'ils se sentent le plus à l'aise possible, le plus rapidement possible et qu'ils nous apportent quelque chose. Parce qu'on savait que si on voulait gagner des titres, ben, il fallait que, entre guillemets, les remplaçants jouent leur rôle de remplaçant et laissent les titulaires arriver sur les matchs importants, les demi-finales finales, dans les meilleures conditions physiques.
Ouais.
Donc, si tu veux, on avait des rôles qui étaient bien définis par Claude. Et donc, ça nous permettait d'arriver frais sur les matchs où on jouait les médailles ou les titres. Et c'est là où on faisait la différence parce que les autres nations, ben, elles jouaient à 8, quoi. Alors que nous, on avait 16 joueurs de qualité, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, mon rôle de capitaine, je me suis pas pris la tête. J'ai vraiment essayé de créer du lien entre tout le monde et de faire en sorte que la vie de groupe soit bonne. Et que tout le monde ait envie de se retrouver à chaque fois et de se régaler pour aller chercher un nouveau titre ou faire une nouvelle performance, quoi. Voilà.
Ok. Et y a des, je sais pas, des petits rituels que t'as mis en place ou des actions un petit peu précises. Que tu vois, là, ce que tu me dis, c'est vraiment le rôle d'un manager. Tu vois, c'est de créer ces moments de groupe, faire en sorte que les nouveaux soient bien accueillis. Tu vois, tu peux avoir ça dans n'importe quelle entreprise. Et et tu vois, du coup, moi, je serais curieux de savoir s'il y a eu des petites choses un peu concrètes que t'as mis en place justement pour créer tout
Alors
ça.
Alors que j'ai mis en place, non, mais en fait, je savais que ben voilà, quand on était plusieurs jours dans un hôtel. Il y avait un moment où on avait envie de sortir un petit peu du train-train quotidien. Donc, ben, j'allais voir Claude et je lui demandais ben, si on pouvait aller manger à l'extérieur ensemble.
Ouais.
Parce que ça pouvait être sympa aussi de manger dans un resto et du coup, tu vois, d'avoir une petite liberté, de pouvoir se dire des choses qu'on se dit pas forcément à table quand on est à l'hôtel parce qu'il y a des clients autour, etc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, tu vois. Bon, voilà. Avoir une vie de groupe un peu plus sympa. Et puis après, ben, quand je sentais qu'il y avait un joueur qui était un peu en retrait, ben, j'hésitais pas à aller le voir dans sa chambre ou essayer de creuser un peu, voir s'il y avait un malaise ou si c'était à titre personnel, que ça allait pas trop dans sa vie et que du coup ça se répercutait sur ses performances à l'entraînement ou dans les matchs. Donc voilà, mais c'est des petits détails qui je pense ont permis à certains de mieux s'intégrer et de se sentir plus vite acceptés par le groupe et notamment par les anciens, parce que quand t'arrives jeune et que tu te retrouves avec des mecs qui ont déjà tout gagné et qui jouent dans les plus grands clubs du monde, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Moi, j'avais vécu ça déjà à mon époque, quand je me suis retrouvé à jouer avec des Jackson, des Stock, des Bruno Martini, etc. Donc, voilà, je voulais qu'ils se sentent le mieux possible dans le groupe et qu'ils aient qu'une envie, c'était de revenir la fois d'après, quoi. Parce que quand t'es dans une équipe de France, à chaque stage, il y a une sélection qui est faite. Donc, si t'es pas bon sur les 2 ou 3 mois entre les stages, tu peux ne pas être rappelé, quoi.
Ouais.
C'est pas comme en club.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais en plus c'est un rôle qui est vachement intéressant, je trouve, tel que t'en parles, parce que c'est, tu vois, il y a plein de manières de s'imposer entre guillemets dans un groupe, tu vois. Il y a ceux qui vont tu vois, je vois, t'as les petits jeunes qui vont essayer de justement faire beaucoup de blagues, très vite aller parler à tout le monde. T'as ceux qui observent un peu plus, ceux qui sont un peu plus introvertis aussi et qui mettent un petit peu plus de temps tout simplement à créer des relations. Et mais c'est hyper intéressant, enfin la manière dont avec laquelle tu le décris. Et est-ce que tu vois, même avec le recul, quand tu repenses au petit Jérôme un peu plus, on va dire adolescent, tu vois, qui découvre sport-études et qui commence à avoir de l'ambition et qui a envie d'être au meilleur niveau. Quand tu regardes ce Jérôme-là, est-ce que tu te dis qu'il y avait des signes annonçateurs un peu de ce rôle un peu de rassembleur,
de rassembleur, oui, parce que j'ai grandi dans un club très convivial avec des gens qui appréciaient passer du temps ensemble, pas seulement sur le terrain. Donc moi, je viens de ce handball un peu festif et où on aime à se retrouver. Donc je pense que oui, ce trait de caractère-là m'a permis effectivement d'être accepté, de m'intégrer plus facilement dans toutes les équipes où je suis passé. Par contre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le gamin que j'étais n'avait pas du tout les ambitions du parcours que j'ai eu, quoi. Mmh. Voilà. Moi aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro et que je vois mon palmarès, je me dis mais c'est incroyable parce que c'était pas du tout ça que j'avais prévu et que je voulais obtenir. Moi, je voulais devenir le meilleur joueur possible, point barre, avec mes capacités. Mais jamais j'aurais pensé rentrer en équipe de France à l'âge de 20 ans, jouer dans le club de mes rêves à Barcelone, côtoyer autant de grands joueurs qui, eux aussi, m'ont fait progresser à leur contact. Alors, pas que handballistiquement, hein, mais aussi mentalement. Le fait de jouer avec des mecs qui supportent pas de perdre, bah, tu deviens un peu comme eux à un moment. Et moi, quand j'étais gamin, ben, quand je perdais un match, j'avais les boules, mais ça durait 5 minutes. Et puis après, ben, je faisais l'imbécile avec les copains, tu vois.
Ouais.
Alors que là, quand tu jouais avec des Bertrand Gilles, des Thierry Omeyer ou des Didier Dinard, ben, les mecs, ils faisaient la gueule jusqu'au prochain match où ils gagnaient, quoi.
Ouais.
Donc des fois, ça pouvait être long, tu vois. Et finalement, j'ai appris à être comme eux et à me dire, ben non, tu fais du haut niveau, du très haut niveau, tu es là pour gagner. T'es pas seulement là pour porter le maillot de l'équipe de France.
Ouais, c'est ton métier, quoi.
Ouais, mais au-delà de mon métier, moi, j'ai toujours vu ça comme une passion. Mais comme je te dis, moi, si j'avais joué en première division à Bordeaux toute ma carrière, sans jamais porter un jour le maillot de l'équipe de France, déjà, j'aurais été satisfait. Déjà, ça m'aurait largement suffi, quoi. Mais après, quand tu te retrouves à gagner la Coupe de France avec Toulouse, alors que t'as 21 ans, et à faire partie déjà des trois meilleurs buteurs du championnat, tu te dis mince, ben pourquoi j'essaierais pas de viser un peu plus haut, quoi. Et en fait, les ambitions sont venues crescendo. Et du coup, après, j'ai signé à Montpellier. Et puis quand tu signes à Montpellier, ben, tu joues la Ligue des Champions, tu deviens champion du monde avec l'équipe de France. Puis derrière, il y a le Barça qui t'appelle et tu dis mais oh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc maintenant, je vais aller au Barça et puis ben, mon prochain objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Alors qu'avant, je contenté entre guillemets de participer avec Montpellier. Et puis après tu gagnes un titre avec l'équipe de France, tu deviens après champion olympique et puis après les mecs ils te disent ouais, alors on est champion du monde, champion d'Europe et champion olympique, mais par contre on l'a jamais fait trois fois à la suite. Là tu regardes les mecs, tu dis mais vous êtes des psychopathes. Mais non, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on marque l'histoire parce que il faut que le handball soit reconnu à sa juste valeur et on en a les moyens, donc il faut le faire, quoi. Et donc derrière, ben, t'es champion olympique à Pékin, donc t'essaies d'être champion du monde en Croatie contre les Croates, t'y arrives. Derrière, t'es champion d'Europe en Autriche en 2010, donc t'as les trois titres en même temps. Et là, tu dis, ben, c'est monstrueux. Et puis derrière, tu te dis, ah ben tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait être deux fois champion olympique d'affilée. Ça, c'est pas fait. Allez, prochain objectif, on fait ça. Et puis après, t'as les autres jeunes, entre guillemets, qui rentrent, les Valentin Porte et tout ça. Et tu te dis, ouais, mais eux, ils ont rien gagné. Donc, ça serait bien de gagner avec eux, comme ont fait les anciens avec nous. Et comme ça, après, on va leur passer le relais et puis ils gagneront après eux, quand on sera plus là, quoi. Puis voilà. Et puis au fur et à mesure, ben, tu construis ton chemin comme ça. Alors que tu vois, j'ai côtoyé des joueurs comme Thierry ou Nicolas qui, ben eux, déjà gamins, ils voulaient être meilleur gardien du monde ou de l'histoire ou être le meilleur joueur du monde, quoi. Ouais, moi, c'était pas du tout ça mon ambition, quoi. Mais je me suis inspiré d'eux.
Ouais.
Donc, ils m'ont bonifié.
Ah, mais après, tu vois, moi, ce que je lis un peu entre les lignes, tu vois, sur ton parcours, c'est que tu t'es concentré sur toi, tu vois. Déjà, toi, à apprécier le chemin et à toi, essayer de donner le meilleur de toi-même et pas forcément d'avoir un objectif hyper précis, hyper défini. Mais
ah oui, parce que toi, tu sais, c'est très compliqué quand tu commences à gagner des titres. Il y a un moment où, entre guillemets, tu t'es rassasié, quoi.
Ouais.
Tu vois, et c'est compliqué de te remotiver. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend quand tu côtoies des entraîneurs comme Patrice Canaillé ou Valero Rivera ou Talan Doutchevaïev. Ça s'apprend quand tu joues avec des grands joueurs qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner tous les matchs qui se présentent devant eux et tous les titres possibles et inimaginables et le nombre de fois que c'est possible. Et du coup, tu dis, ouais, en fait, c'est eux qui ont raison, quoi, parce que la carrière, elle peut être courte et il faut en profiter au maximum, quoi. Alors moi, j'ai eu la chance de jouer pendant 20 ans au niveau professionnel, mais bon, c'est pas tout le monde qui arrête de jouer à 40 ans, quoi. Donc au début, tu te dis, bon, je vais tirer jusqu'à 30-31. À 31 ans, t'es champion olympique à Pékin, t'as gagné tous les titres. Et là, tu te dis, bon,
on fait allez, quoi après
je vais laisser la place aux jeunes. Et là, le staff te dit, maintenant, c'est toi le capitaine. Si je suis capitaine, je peux pas ne pas revenir. Donc, je vais essayer de regagner tout en étant capitaine. Et tu le fais. Tu y arrives. Et puis après, tu te dis, écoute, maintenant, on va se mettre sur le banc, on va faire jouer les jeunes. Et puis quand les jeunes, ils y arriveront pas, on va rentrer pour essayer de faire gagner le match. Et donc, en fait, ton rôle évolue au fur et à mesure des années.
Ouais.
Et puis à chaque fois, c'est du bonheur, quoi. Ouais. Chaque fois, c'est du bonheur. Donc, c'est génial.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, c'est marrant de la façon avec laquelle tu le racontes, tu vois, de se fixer un nouvel objectif. Ça a l'air tellement simple quand tu le racontes, mais
non, mais c'est pas simple.
C'est pas simple, j'imagine. Ouais.
C'est pas simple, mais le sport co fait que tu côtoies des gens qui peuvent effectivement t'emmener avec eux et forcément te projeter sur un autre objectif.
Ouais. Ouais, puis il y en a toujours un qui va avoir une idée d'objectif, quoi. Tu vois, le premier qui balance
toujours
l'idée en disant, mais personne n'a gagné deux fois les jeux d'affilée,
toujours.
Tu vois, il y en a toujours un qui va aller.
Tu vois, c'est tout bête, hein, mais je me rappelle la première compétition de Valentin Porte, c'était en Espagne en 2013. Il est choisi pour venir avec nous et il s'attendait pas à être dans les 16, en fait.
Ouais.
Il pensait pas qu'il allait rentrer dans l'équipe parce qu'il venait juste d'arriver, c'était son premier stage. Il arrive en Espagne et en Espagne, on perd en quart de finale. Et il me dit un truc, il me dit, Jérôme, vous gagnez tout depuis des années, et maintenant que je suis là, on gagne plus. Je dis, Valentin, c'est pas comme ça que ça marche, t'inquiète pas. L'année prochaine, il y a 1 euro, on essaiera de le gagner. Et on a tout ce qu'il faut pour le gagner. Et l'année d'après, on est champion d'Europe en 2014 au Danemark. Et là, il explose de joie, quoi.
Ouais.
Et il se dit, ouais, ça y est, je commence à devenir comme eux, quoi. Et en fait, tu vois, ce témoin que nous a passé la génération des Barjots, cette gagne, cette culture de la gagne, eh bien nous, on a fait en sorte de la transmettre à la génération d'après. Et aujourd'hui, tu le vois, et quand ils perdent, ils sont malheureux, quoi.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'on a réussi quelque part à faire ce qu'ont fait les anciens avec nous.
Ouais, ouais, c'est clair. Y a un dicton qui dit que les équipes qui gagnent, ce sont les équipes qui fêtent bien, qui font bien la fête.
Bah écoute, en tout cas, titres, oui.
Avec tous les titres. Et
il y a une part de vérité.
Et de ce qu'on peut vous entendre de temps en temps, on sent que vous êtes des gens, en tout cas, vous êtes tous assez chaleureux et que je pense que vous aimez bien faire la fête. Si tu devais retenir, je sais pas, une fête ou un moment que vous avez vécu ensemble, toi, ça serait lequel qui t'a le plus marqué?
Déjà, à chaque fois que tu gagnes quelque chose, tu vis le moment présent et tu te dis, il faut que je profite du moment parce que peut-être que ça n'arrivera plus. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais imaginé que la compétition d'après, on allait encore la gagner, quoi. Donc, à chaque fois, on a essayé, effectivement, de marquer le coup. Après, je te cache pas qu'il y a eu une fois où j'avais vraiment l'impression que c'était la fin. C'était à l'ombre.
Ouais.
J'avais le sentiment que j'avais 35 ans et que c'était peut-être la dernière compétition que j'allais gagner, en tout cas les derniers jeux sûrs. Et donc, j'ai un petit peu lâché les chevaux pendant la soirée après la finale. et j'ai perdu mon accréditation.
Ah ouais.
De France.
OK.
Ce qui fait que je n'ai pas pu revenir au village pour dormir.
OK.
Donc toute l'équipe est repartie au village après la soirée, il était 3-4 heures du mat. Et moi, j'ai été recueilli par le CNOSF dans un hôtel où étaient logés les gens du CNO dans Londres. Donc j'ai dormi à l'hôtel. Et en fait, c'est Thierry Omeyer qui m'a ramené toutes mes affaires du village à la gare le lendemain pour pouvoir prendre le train et repartir sur Paris. Donc quand il m'a amené mes affaires à la gare, moi je les ai retrouvées à la gare, il m'a donné mes affaires et je me suis habillé comme eux et on a fait comme si de rien n'était, mais bon, pendant quelques heures, j'étais sans domicile fixe dans Londres, voilà.
Bon, on te demandera pas comment t'as fait pour perdre ton accréditation.
Mais en fait, c'est simple. On a commencé un petit peu à faire les imbéciles sur la scène avec les basketteuses qui avaient été vice-championnes olympiques. Et en fait, au bout d'un moment, comme il y avait les supporters qui étaient en bas de la scène, au bout d'un moment, dans l'euphorie, tu vois, on a commencé à se jeter un peu comme des stars de rock.
Ouais.
Et eux, ils nous attrapaient, ils nous portaient comme ça et puis ils nous posaient. Et moi, j'avais l'accrédit autour du cou. Mais bon, il y a un moment où t'es dans un état où t'es plus trop lucide, tu vois. Et l'accrédit, alors peut-être que quelqu'un me l'a prise ou peut-être que je l'ai fait tomber. Mais en tout cas, je l'avais plus après, quoi. Et je m'en suis même pas rendu compte.
Ah ben, bah, tu m'étonnes.
Voilà.
Bon, en tout cas, j'aurais pas aimé être ceux qui étaient en dessous toi, parce que bon, j'ai 1m99, je crois. il devait pas faire des...
Au début, on avait peur qu'il s'écarte et que du coup, on se prenne des pelles, mais bon, finalement, ça a été.
Parce que déjà, les basketteuses aussi, elles sont pas petites. Il y en a qui sont très grandes et tout. Donc, bon, en tout cas, ça devait être un bon moment. Et merci pour ce petit partage. Je savais pas cette petite anecdote en dehors du village olympique, mais Et selon toi, ouais, c'est celui un peu que l'équipe aussi elle retient là ce titre de 2012.
Tous les titres sont un petit peu personnels, tu vois.
Ouais.
Y en a qui vont te parler de certaines compétitions. Moi, j'en aurais retenu d'autres. Il y a une partie émotionnelle aussi qui fait que des fois certaines compétitions sont un petit peu à part. Alors moi, pour mon cas personnel, par exemple, la compétition, le mondial en 2009, c'est ma première compétition en tant que capitaine. En plus, c'est en Croatie contre les Croates, donc tu vois, grosse pression sur les épaules.
Ouais.
Et moi, je voulais pas être le capitaine de la loose, quoi. Donc, je voulais absolument qu'on gagne, tu vois. Ouais. Et malheureusement, à cette époque-là, mon papa était malade d'un cancer. Ça faisait quelques années qu'il l'avait contracté, mais il avait été soigné et il avait été stable pendant 3-4 ans. Mais voilà, il a rechuté quelques mois avant les Jeux. Et en fait, quand je suis arrivé au Mondial en janvier, il était en fin de vie. Il lui restait que quelques jours à vivre. Et donc, si tu veux, moi, je l'ai appris en fait entre la demi-finale et la finale. Ma mère m'a avoué que voilà, que mon père était resté à la maison parce qu'il voulait pas aller à l'hôpital pour pas rater les matchs, mais que du coup il était à la maison, il avait une aide respiratoire et que bah, il lui restait que quelques jours à vivre, quoi. Donc du coup, si tu veux, bah, la finale, c'est un moment à part, quoi, parce que ouais, c'est une finale de mondial, t'en as déjà vécu, mais tu sais que t'as qu'une hâte, c'est que le match il se finisse, parce que t'as envie d'aller dire au revoir à ton père, quoi.
Ouais.
Parce que du coup, dans ces moments-là, le handball, même si t'es en équipe de France et que t'es dans une finale de mondial, bah, le handball, il devient un petit peu secondaire, quoi.
Bien sûr.
Donc, du coup, je m'étais même posé la question de partir avant la finale. J'en ai discuté avec Claude Onesta. Claude m'a dit, écoute, ton père, il veut que tu joues la finale et que tu la gagnes. Et après, tu rentreras avec la médaille et tu auras le temps de lui dire au revoir. Mais ça a été très dur. Ça a été très violent. Et d'ailleurs, sur les images de fin de match, je m'écroule sur le terrain. Les gens pensaient que c'était parce qu'on avait gagné, mais c'était plus par le côté émotionnel qui avait été trop fort pour moi. Et voilà, je l'avais caché à mes coéquipiers. Donc ils n'étaient pas au courant. Parce que je voulais surtout pas que ça puisse nuire à la performance du groupe. Et donc, à la fin, quand il me voit par terre en train de pleurer, il y a Cédric Sorando qui vient me voir. Il me dit « Ah, Fernand, on a gagné et tout. » Je dis « Ouais, je sais. » Il me voit pleurer et il me dit « Ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout ?» Et donc, du coup, au bout d'un moment, je leur avoue à tous, quoi.
Ouais, tu peux pas garder ça pour
et
toi.
Et du coup, ouais, ben, c'était un peu particulier, quoi. Donc, c'est vrai que moi, cette compétition-là, elle a une saveur particulière. Mais pour chaque finalement individu, par rapport à son caractère, par rapport à sa vie personnelle, bah lui, il va peut-être te citer d'autres moments, quoi.
Ouais, c'est clair. Ben, écoute, je savais pas ce passage sur toi, Jérôme. Donc, merci de. Non, mais c'est pas évident. Tu vois, j'en avais les larmes aux yeux, tu vois, quand tu me l'as dit, parce que je.
Bah, écoute, quand je le racontais depuis plusieurs années, j'avais à chaque fois, j'arrivais pas à finir l'histoire parce que je partais en sanglots. Il y a que depuis 3-4 ans que j'arrive à la raconter. Alors j'ai les larmes qui montent, mais j'arrive à me contenir. Surtout qu'en plus, si tu veux, ce qui a été terrible, c'est que 3 ans après, l'histoire s'est répétée avec ma maman. Et malheureusement, on n'a pas gagné l'Euro en Serbie. Ça a été même une catastrophe sportivement. Et ma mère est décédée quand j'étais dans l'avion du retour. Donc j'ai même pas pu lui dire au revoir. Je l'avais fait avant de partir parce que je me suis dit, si ça tourne au vinaigre, autant que tu vois, on ait une vraie discussion au cas où elle serait malheureusement décédée quand je reviendrai. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est sûr que quand tu perds tes parents à l'âge de 54 et 55 ans d'un cancer tous les deux à 3 ans d'intervalle, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, surtout que je suis parti très tôt de la maison, que même s'ils m'ont beaucoup suivi, ils sont venus très souvent me voir, que ce soit avec mes clubs ou avec l'équipe nationale. Tu vois, bon, voilà, tu as l'impression un petit peu d'avoir raté certains moments, tu vois. Et donc, voilà, mais bon, certains diront que le jeu en valait le coup. Moi, j'échangerais bien tous mes titres pour avoir encore mes parents aujourd'hui, quoi.
Ouais, bien sûr. Je comprends mille fois, ouais. Mais j'ai ma mère, typiquement, qui est très malade en ce moment, et je me dis souvent, j'ai aucun titre, mais je me dirais que, ouais, enfin, répète souvent, en tout cas, que je ferais.
Ouais, que tu donnerais n'importe quoi pour que soit soigné,
ouais. Exactement, ouais, exactement. Mais, et peut-être là, tu vois, après, tous ces moments, tu vois, aussi intenses de vie que tu vis via le hand, et comment est-ce que tu vois, à quel point c'est facile d'arrêter en fait, ou à quel point c'est difficile d'arrêter, tu vois, est-ce que ça se prépare, comme tu le disais, t'as eu une carrière super longue, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. Est-ce que c'est un truc. Enfin, comment est-ce que tu le prépares? Est-ce qu'il n'y a pas un vide un peu après?
Il vaut mieux le préparer.
Ouais.
Parce que très sincèrement, moi, je l'ai préparé depuis très très longtemps. J'avais la folle envie d'arrêter à 40 ans, mais je m'étais dit bon, tu verras en fonction de ton évolution physique et de tes capacités, puis du niveau de jeu que tu arriveras à maintenir ou pas. J'ai eu la chance d'arrêter à 40 ans, à l'âge que je voulais, au moment où je voulais, avec mon diplôme d'entraîneur, et j'ai enchaîné de suite en étant entraîneur. Donc, si tu veux, il n'y a pas eu de coupure.
Ouais.
Mais malgré tout, ça a été difficile. C'est un peu comme une mini-mort, tu vois. C'est-à-dire que tu dis au revoir à ta jeunesse, tu dis au revoir à ce qui te plaît le plus de jouer au handball. Même aujourd'hui, si tu veux... Si je pouvais avoir 10 ans de moins pour refaire des matchs et des entraînements, j'adorerais. Mais je compense par d'autres choses.
Ouais.
Je compense en voulant être entraîneur, je compense en jouant au paddle tennis, qui est un sport merveilleux dans lequel je prends beaucoup de plaisir, okay. Mais qui n'est pas mon sport. Même si je me régale, tu vois. Mais heureusement, c'est un sport ludique où je rencontre des gens et ça correspond, si tu veux, à mon état d'esprit et à mon caractère. Mais ça remplacera jamais le fait de jouer au handball et d'être joueur de handball et surtout de l'équipe de France et de jouer dans les plus grands clubs du monde. Voilà, quand tu as eu la chance de vivre ces moments-là, forcément après, le reste devient un petit peu plus fade, un petit peu moins trippant, on va dire. Mais voilà, il faut arriver à préparer ça pour que la chute elle soit moins brusque et que tu tombes pas en dépression, quoi. Parce que franchement, je pense que si j'avais pas eu la chance d'avoir une famille aimante, d'être bien entouré, d'avoir beaucoup d'amis autour de moi, d'être encore apprécié par le milieu, etc. De retomber dans l'anonymat et de plus avoir ta passion au quotidien, je pense que ça aurait été très très compliqué, très
ouais.
compliqué.
Ouais, ouais. Mais je me suis toujours demandé s'il y avait des émotions plus fortes qu'on peut trouver autrement que dans le sport, tu vois, et avec des moments aussi
intenses. Oui, bien sûr. Bah, tu ouais. sais, moi je le dis souvent à mon fils, mais le plus beau jour de ma vie, c'était le jour de sa naissance.
Ouais.
Beaucoup plus que d'être champion olympique. Ça n'a rien à voir. Devenir père, c'est magique. C'est magique. Et moi, je fais vraiment la part des choses. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'avoir plus que réussi ma carrière de haut niveau et d'avoir profité au maximum de ma jeunesse et de toutes les années où j'ai pu pratiquer ma passion. Mais rien ne vaut le fait de fonder une famille et d'être père, quoi, et de voir son enfant grandir. D'autant plus que lui, aujourd'hui, fait du sport, il a choisi son sport, il commence un petit peu à percer aussi. Donc du coup, ben tu l'accompagnes et tu vois cette ouais. t'as cette complicité où tu te dis ben j'ai fait du sport de haut niveau, donc je vais pouvoir te donner quelques trucs pour mieux y arriver, quoi. Ouais. Et ça c'est génial, cette complicité que tu peux avoir avec ton ou tes enfants. Bon, moi il s'avère que j'en ai qu'un. Mais bon, voilà. Je vis des moments fabuleux avec lui.
Ouais ouais, et puis en plus bon, je sais pas s'il s'en souvient, mais il t'a vu jouer, il t'a vu gagner.
Oui.
Donc,
lui, il a beaucoup de souvenirs, si tu veux, de fin de compétition où il venait avec sa mère pour assister aux demi-finales et aux finales. Ouais. Et puis après, quand on montait sur le podium, il y avait les confettis. Donc lui, il était petit, il venait, il jouait avec les confettis, il se rendait pas compte de ce que c'était. Maintenant qu'il est un peu plus grand, tu vois, il est ado. Bah, quand il réfléchit et qu'il se dira toutes les fois où mon père, il a été champion du monde, champion d'Europe, où derrière on a pu fêter ça, etc. Je pense qu'il commence à en prendre conscience, mais il est encore très jeune, il a même pas 14 ans.
Ouais.
Mais du coup, lui, ça lui donne de l'ambition dans son sport. Il fait du water polo et il se dit, ben après tout, le handball, quand mon père il a commencé, ils étaient 20e nation mondiale. Nous, le polo aujourd'hui, on est peut-être 12e nation mondiale. Ben pourquoi pas un jour avec ma génération aller chercher un podium européen, mondial ou olympique, quoi.
Ouais. Ouais, il se donne
tu vois, lui aussi,
rêver,
ouais. exactement, ouais. Tout à fait.
Ah ben ça, c'est sûr que, tu vois, je pense que l'influence de l'entourage très jeune, tu vois, cette formage
en plus,
de manière indirecte.
La maman a été sportive de haut niveau, elle a fait du basket
ouais, bien sûr.
En première division. Donc, si tu veux, quand tu as deux parents qui ont connu le très haut niveau français, bah, tu sais que voilà, tu peux avoir de bons conseils, quoi.
Ouais, ouais. Bon, tu le rappelles quand même de faire des études et qu'il
oui.
faut qu'il y ait autre chose que le water polo.
Tu sais, je pense que ce qui est la grande réussite du handball français, surtout, c'est le fait qu'on est toujours dans le double projet.
Ouais.
On veut des athlètes qui aient la tête bien remplie et qui réussissent dans leurs études, quitte peut-être à finir leur cursus d'études secondaires après leur carrière de haut niveau ou à faire des formations professionnelles pendant leur carrière de haut niveau. Mais au minimum, il te faut arriver avec un bac et être voilà, être un garçon en capacité ou une fille hein, en capacité à bien travailler, à être structuré, à planifier des choses, etc. Je pense que c'est ce qui fait que les joueurs et les joueuses français sont des joueurs de qualité, tout simplement.
Ouais.
Voilà. Et on l'a vu dans d'autres sports, quand on commence à mettre de côté un peu la scolarité. Après, ça peut malheureusement faire des athlètes pas toujours très bien équilibrés.
Ouais, ouais, c'est clair. Franchement, je partage ton point de vue à 200% parce que c'est, tu vois, il y a pas que le sport dans la vie, ça fait partie de ouais. la vie, ça fait partie de la vie surtout.
Et j'en suis d'autant plus conscient aujourd'hui que je suis père de famille
ouais.
et que j'ai 44 ans, tu vois.
Ouais. Ah bah tu m'étonnes.
Ouais.
Et d'ailleurs tu vois en parlant de formation et un petit peu d'après carrière du coup t'as entraîné pendant plusieurs années là tu fais une petite pause alors bon j'ai cru comprendre que c'était une pause un peu forcée
oui
mais et pas forcément très agréable à apprendre mais c'est quelque chose que t'as envie de retrouver rapidement
ouais.
le fait d'entraîner une équipe c'est quelque chose qui est dans les projets là dans les cartons.
Oui, moi de toute façon, j'ai commencé le métier à Aix pour apprendre d'abord à planifier, à diriger un groupe, etc. Parce que même si j'ai été capitaine, c'est encore un stade au-dessus. Je te cache pas qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre tout mon savoir un maximum de joueurs ou de joueuses français et françaises. Et quoi de mieux que de le faire pour ta fédération? Donc moi, j'ai dans un coin de ma tête la volonté de devenir entraîneur national. Alors, est-ce que ça sera avec les grands? Est-ce que ça sera avec les jeunes? Je n'en sais rien. Mais c'est une vraie volonté, c'est une vraie ambition, beaucoup plus que d'entraîner un club en particulier.
Ouais.
Parce que voilà, le handball français m'a tout donné. Je pense avoir beaucoup donné aussi à l'équipe de France, en tout cas tout ce que je pouvais donner. Et j'ai envie que cette belle aventure continue dans un autre rôle aujourd'hui. Et voilà, si un jour la fédération a besoin de mes services, ça sera pour moi un grand honneur et une grande fierté de pouvoir le faire et faire profiter de tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années où j'ai foulé les parquets pour les futures générations, quoi, voilà.
Ouais, non, et puis c'est une chance, tu vois, d'avoir aussi pour un sport et pour une fédé, tu vois, d'avoir des ambassadeurs, tu vois, comme toi qui continuent et qui s'investissent d'autant plus et qui continuent dans ce rôle de transmission. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi une journée avec Jérôme? Quelles sont tes missions et qu'est-ce que...
Ouais, c'est une journée un peu de bon père de famille ou... j'amène mon fils à l'école, quand il sort, je vais le chercher, je l'amène à l'entraînement. Et puis entre-temps, si je suis pas occupé à commenter les matchs pour Eurosport ou si j'ai pas d'interview ou de sollicitation, je m'occupe de la maison. Voilà, je suis un peu devenu un père de famille qui s'occupe de son chez-soi, quoi, voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup parce que j'ai pas pu le faire auparavant. J'étais très souvent absent. Donc voilà, je sais que c'est une période et que j'en profite à fond. Et puis, le jour où je retrouverai un projet pour entraîner, j'aurai moins de temps à passer à la maison. Mais voilà, j'en aurais bien profité. Et puis bon, de toute façon, mon fils va devenir bientôt adulte et lui aussi va faire sa vie, donc on pourra peut-être à nouveau avec mon épouse bouger et vivre d'autres moments forts autour du handball ou d'autres choses.
Ok, bon, cool. Écoute, je suis à côté d'une petite table en bois, donc c'est tout ce que je la touche fort et c'est tout ce que je te souhaite pour la suite.
C'est gentil.
Et ça me ferait plaisir de te voir crier un peu sur le banc ou être debout un peu. Ça ferait vraiment plaisir. Écoute, le temps tourne et là, j'ai pas envie effectivement de te retenir trop longtemps. Ouais. J'ai trois petites questions de fin que j'aime bien poser à tous les invités. La première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi? Ça ressemble à quoi?
Une bonne journée, c'est une journée où je me lève plutôt tôt.
Ouais.
Alors quand je dis tôt, c'est autour tôt de 6h du mat.
Oh, ok.
Voilà. Il y a des fois, c'est plus près de 5h, et puis il y a des fois, c'est plus près de 7h. Voilà.
Okay.
C'est un peu mon créneau de réveil, où je vois le soleil se lever. Voilà, j'ai la chance d'être dans un cadre où il y a beaucoup de nature. Et puis prendre un peu des nouvelles du milieu, m'informer de tout ce qui se passe, attendre que la petite famille se lève, déjeuner en famille. Et puis après, dans la journée, si j'ai le temps, je vais me faire une petite partie de paddle pour me dépenser un peu et m'amuser. Et sinon, je m'occupe sur ce qu'il y a à faire à la maison. Donc en ce moment, c'est beaucoup d'extérieur. Tout ce qui est tondre, tailler les, voilà, s'occuper du jardin, de la piscine aussi, puisque on va pouvoir commencer à se baigner de manière fréquente. Et puis voilà, le soir, se retrouver en famille, autour d'un repas, échanger sur tout ce qu'on a vécu dans la journée, et le soir, se coucher tranquillement, apaisé et heureux d'être dans notre maison, sans problème particulier. Et en se disant que on va faire en sorte que la prochaine journée va être bonne aussi. Voilà.
Ok. Bon, une journée simple et bien remplie quand même.
Simple et efficace.
Ok, ça roule.
Ouais.
Si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 15 ans, tu vois, qu'est-ce que le petit Jérôme, il aurait eu besoin de savoir, tu vois, qu'est-ce que tu aurais eu envie de lui dire à ce moment-là, si tu pouvais te transmettre une lettre et revenir dans le passé?
Je pense que ce que je me dirais, c'est crois en toi, parce que tu as un bel avenir devant toi. C'est vrai que j'étais un petit peu, je me sentais un petit peu pas assez bon, quoi, tu vois. Voilà, par rapport à d'autres, j'estimais que j'étais pas au niveau, je croyais pas assez en mes capacités, et puis surtout de me donner la liberté aussi d'être ambitieux, de croire en mes rêves, parce que quand j'étais gamin, mes rêves c'était d'un jour porter le maillot de l'équipe de France et de jouer au Barça, et j'y suis arrivé. Donc voilà, c'est surtout ça, et profiter de ma famille aussi.
Ouais.
Parce que le temps passe très vite et que j'ai eu une enfance formidable. J'ai été vraiment gâté avec des parents fantastiques, une famille, notamment du côté de ma mère, qui était très présente et où je me rappelle, voilà, les repas de famille dominicaux, les parties de basket, de foot, de tennis avec les cousins. Bah, c'était génial, quoi. J'ai vraiment eu une enfance formidable et voilà. Et je me dirais d'en profiter un maximum, parce qu'après, quand la carrière va démarrer, tu verras plus trop ta famille et elle va te manquer, et elle me manque encore aujourd'hui.
Ouais, bah c'est, écoute, tu fais bien de le dire pour tous les jeunes qui nous écoutent, de effectivement, tu vois, ouais, de pas oublier ce qu'il y a de plus important et de plus cher, quoi. Trop bien. Et la toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un peu comme celui-là, tu vois, où on peut parler de tout, de rien, de performance.
Il y en a beaucoup, hein.
Ah, moi je prends tous les noms.
En tout cas, j'en connais pas mal. Oui. Non, il y a des. Je crois que chaque athlète qui marque un petit peu son sport est toujours intéressant à interviewer. Tu vois, un Martin Fourcade dans le biathlon, un Teddy Riner au judo, une Virginie Dedieu en natation artistique, un Renaud Lavilloni à la perche. Tu vois, des gens qui ont ultra performé et qui ont marqué l'histoire de leur discipline. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui leur a permis ou ce qui les a motivés à faire ce parcours-là, quoi. Voilà.
Ouais. Ouais, bah écoute, c'est dans les petits papiers, hein, tous les noms que tu viens de dire, donc
cool.
J'espère que ça sera bientôt. Ouais, carrément, c'est tous des gens géniaux, et en plus qu'on la banane, donc c'est toujours, ouais, à chaque fois un bon moment. Ouais. Écoute, merci infiniment, Jérôme.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir répondu présent à la demande de Nadège, d'ailleurs, que j'embrasse, et
ouais,
je fais une petite bise. Et écoute, je touche du bois pour toi pour la suite. J'ai passé un super moment, on a bien rigolé. On a parlé aussi des petits moments un peu incongrus comme à Londres, donc merci pour ces petites anecdotes, et écoute, je te laisse retourner à tes occupations, à ta vie de papa, de père famille, et je te dis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Ça marche, merci beaucoup, et puis peut-être une prochaine dans quelques années.
Ben, avec grand plaisir.
Ça roule.
Salut.
Bonne soirée. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.